Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Les mots de Jean-Paul Sartre. Les mots sont l'histoire de l'enfance de Jean-Paul Sartre, dans l'appartement du 1 rue Le Goff, dans le 5e arrondissement, avec sa mère Anne-Marie, sa grand-mère maternelle Louise, et surtout son grand-père, Charles Schweitzer, professeur d'allemand, protestant d'origine alsacienne, inventeur de la méthode directe pour l'enseignement des langues vivantes. Très vite, le petit Sartre se passionne pour la lecture des innombrables livres classiques de la bibliothèque familiale et entreprend d'écrire lui-même des récits. Mais il y a une forte part de comédie familiale dans ses activités littéraires précoces que l'enfant stimule avec attendrissement. En effet, l'enfant est plus sincère quand il rêve, pour justifier son existence, d'exploits chevaleresques et héroïques tels qu'il les lit dans la littérature enfantine. Mais l'inconsistance de ses exploits imaginaires le dégoûte et il confie les pouvoirs sacrés du héros à l'écrivain qu'il sera. Il imagine donc que sa vocation littéraire répond à l'attente d'une humanité qu'il aura à défendre. Sartre a alors 7-8 ans. Jean-Paul Charles Aymar Sartre est né le 21 juin 1905 au domicile de ses grands-parents maternels dans le 16e arrondissement de Paris. Fils unique, il est issu d'une famille bourgeoise. Sa mère, Anne-Marie Schweitzer, appartient à une famille d'intellectuels et de professeurs alsaciens, les Schweitzer. Comme il est orphelin de son père à l'âge de 15 mois, c'est son grand-père, Charles, professeur agrégé d'allemand à la retraite, auteur d'une méthode expérimentale reconnue sous la Troisième République, qui fit son instruction avant son admission à l'école publique à 10 ans. Sa mère se remarie avec un polytechnicien de la même promotion que son défunt mari. Sartre, alors âgé de 12 ans, ne finira jamais de haïr son beau-père. En 1924, 2 ans après leur entrée à Louis-le-Grand, Sartre et Nizan, avec qui il nouera une amitié fusionnelle, sont tous deux reçus au concours de l'École normale supérieure de Paris. Sartre échoue en 1928 au concours d'agrégation de philosophie, alors que Raymond Aron est classé premier. Préparant d'arrache-pied le concours pour la seconde fois, il rencontre dans son groupe de travail Simone de Beauvoir, la castor, par référence à l'anglais « beaver », qui signifie « castor ». D'une part, cet animal symbolise le travail et l'énergie ou l'esprit constructeur. D'autre part, la sonorité du mot « beaver » est proche de celle du nom « Beauvoir ». En 1929, à la seconde tentative, Sartre est reçu premier au concours d'agrégation, Simone de Beauvoir obtenant la deuxième place. En 1932, il découvre « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline, une œuvre qui le marquera durablement. À l'été 1933, il prend à l'Institut français de Berlin la succession de Raymond Aron. En Allemagne, Sartre ne voit rien de la montée du nazisme. Son obsession est de devenir écrivain. Il publie en 1938 « La nausée ». Cette notoriété naissante est brusquement éclipsée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Sartre est mobilisé le 2 septembre 1939, affecté pendant la drôle de guerre au camp d'aviation militaire d'Essey-les-Nancy comme soldat chargé des sondages météorologistes. Le 21 juin 1940, Sartre est fait prisonnier à Padoue dans les Vosges et est transféré dans un camp de détention de 25 000 détenus en Allemagne, près de Trèves. Son expérience de prisonnier le marque profondément. Elle lui enseigne la solidarité avec les hommes. L'expérience de la guerre et de la vie en communauté va le transformer du tout au tout. En mars 1941, Sartre est libéré grâce à un certificat médical alléguant une cécité partielle à l'œil droit. Son engagement dans la résistance en 1941 est fortement mis en doute en raison de son attitude de trouble durant l'occupation. En 1943, dans l'année la plus noire de l'occupation, il fit jouer à Paris les mouches, c'est-à-dire qu'il fit très exactement ce que fit Sacha Guitry, donner ses pièces en représentation devant un parterre d'officiers allemands, à cette différence qu'à la libération, Guitry fut arrêté alors que Sartre fit partie du comité d'épuration qui décidait quel écrivain avait encore le droit de publier et quel autre devait être banni. En 1944, il publie Huis clos. Peu après la libération de Paris, Sartre est recruté par Camus pour le réseau résistant Combat. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970. Il entretient avec la journaliste Dolores Vanetti, rencontrée aux États-Unis en 1945, une liaison de plusieurs années, révélée par les mémoires de Simone de Beauvoir. C'est d'ailleurs à Dolores que le philosophe dédie, en octobre 1945, sa présentation du premier numéro des Temps modernes. Seule et unique allusion à sa passion de 5 ans pour cette journaliste française de New York qui, à un moment historique crucial, lui a ouvert la porte de notre continent et donné toutes les clés pour comprendre les États-Unis, en particulier la ségrégation raciale. Il a partagé sa vie avec Simone de Beauvoir, philosophe de l'existentialisme et féministe, avec laquelle il a formé un couple célèbre du XXe siècle. De 1949 jusqu'à sa mort, il a simultanément vécu une liaison avec Michèle Vian, la première épouse de Boris Vian, collaboratrice à la revue Les Temps modernes. Il est connu aussi bien pour son œuvre philosophique et littéraire qu'en raison de ses engagements politiques, d'abord en liaison avec le Parti communiste, puis avec les courants gauchistes au sens léniniste du terme, plus particulièrement les maoïstes, dans les années 1970. Il sera un des fondateurs de Libération, en 1973. Selon Sartre, dans ce monde tragique, l'homme ne peut accéder à sa liberté qu'au prix du sang et dans la douleur. Intransigeant et fidèle à ses idées, il a toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure. Il a notamment refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Il publie cependant en 1964 une autobiographie, Les mots, où il explique, notamment à travers ses souvenirs d'enfant, comment il s'est réfugié dans le langage, se composant ainsi une image d'écrivain. Jean-Paul Sartre meurt le 15 avril 1980 à près de 75 ans à l'hôpital Brousset de Paris, à la suite d'un œdème pulmonaire. 4 jours plus tard, des milliers de personnes l'accompagnent au cimetière du Montparnasse, où il est provisoirement inhumé. Jean-Paul Sartre sera incinéré la semaine suivante au cimetière du Père-Lachaise, puis ses restes inhumés à Montparnasse, dans un caveau situé à quelques pas de son ancien domicile. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allée de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil, par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leur organe intérieur, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient encore l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture et je n'en ai jamais vu plus de deux à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries du Nouvel An parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais mystifié. Sont-ce les mêmes ? Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre, dans sa bergère à oreillette, chaussait ses besicles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire. Je pensais à la messe, à la mort, au sommeil. Je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les deux femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées. C'était des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur, exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par désœuvrement dans la chambre de sa femme, et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait. Il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. « Charles !» s'écriait-elle furieusement. « Tu vas me perdre ma page ?» Déjà, les sourcils hauts, il lisait. Brusquement, son index frappait la brochure. « Comprends pas ?» « Mais comment veux-tu comprendre ?» disait ma grand-mère. « Tu lis par-dedans ?» Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules. Il avait sûrement raison puisqu'il était du métier. Je le savais. Il m'avait montré sur un rayon de la bibliothèque de forts volumes cartonnés et recouverts de toiles brunes. « Cela, petit, c'est le grand-père qui les a faits. » Quelle fierté! J'étais le petit-fils d'un artisan spécialisé dans la fabrication des objets saints, aussi respectable qu'un facteur d'orgue, qu'un tailleur pour ecclésiastique. Je le vis à l'œuvre. Chaque année, on rééditait le Deutsche Lesenbuch. Aux vacances, toute la famille attendait les épreuves impatiemment. Charles ne supportait pas l'inaction. Il se fâchait pour passer le temps. Le facteur apportait enfin de gros paquets mous. On coupait les ficelles avec des ciseaux. Mon grand-père dépliait les placards, les étalait sur la table de la salle à manger et les sabrait de traits rouges. À chaque faute d'impression, il jurait le nom de Dieu entre ses dents, mais il ne criait plus, sauf quand la bonne prétendait mettre le couvert. Tout le monde était content. Debout sur une chaise, je contemplais dans l'extase de ses lignes noires striées de sang, Charles Schweitzer. M'apprit qu'il avait un ennemi mortel, son éditeur. Mon grand-père n'avait jamais su compter. Prodigue par insouciance, généreux par ostentation, il finit par tomber, beaucoup plus tard, dans cette maladie des octogénaires, l'avarice, effet de l'importance et de la peur de mourir. À cette époque, elle ne s'annonçait que par une étrange méfiance. Quand il recevait par mandat le montant de ses droits d'auteur, il levait les bras au ciel en criant qu'on lui coupait la gorge ou bien il entrait chez ma grand-mère et déclarait sombrement « Mon éditeur me vole comme dans un bois !» Je découvris, stupéfait, l'exploitation de l'homme par l'homme. Sans cette abomination, heureusement circonscrite, le monde eût été bien fait pourtant. Les patrons donnaient selon leurs capacités, aux ouvriers selon leurs mérites. Pourquoi fallait-il que les éditeurs, ces vampires, le débarrassent en buvant le sang de mon pauvre grand-père ? Mon respect s'accrut pour ce saint homme dont le dévouement ne trouvait pas de récompense. Je fus préparé de bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la littérature comme une passion. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.